La première.
Bonjour tout le monde.
Sangoku.
Salut l'artiste.
Dragon Ball, la quête finale. Des 7 boules de cristal venues des étoiles.
11h30, 13h.
Je deviendrai le maître avec les 7 boules de cristal.
Yo, et tu oses qu'il est là. Tu connais ce que tu as dit, Ganaka.
Entrée sans frapper.
Voilà, c'est une émission très diversifiée aujourd'hui, hein, Dick Tomasovic.
C'est pas tous les jours qu'on passe ces sons-là dans votre émission.
Exactement. Après Micheline Prel, nous allons évoquer la vie, la carrière, mais aussi l'importance, hein, de son œuvre. C'est Akira Toriyama, qui était né en 1955 et qui nous a quittés le 1er mars dernier. Ça a été un choc, le décès de Akira Toriyama.
Oui, évidemment, il est reconnu comme une grande figure géniale, hein, du milieu, mais une figure très discrète aussi. Et c'est vrai que sa mort à 68 ans a pris un peu tout le monde par surprise. Ça avait été annoncé sur le site officiel de Dragon Ball, et puis très vite le Bird Studio, qui est le studio que lui-même avait créé, précisé que Toriyama avait été enterré dans l'intimité familiale et avait imploré les millions de fans de n'envoyer surtout ni aucun cadeau, ni aucune fleur, ni même aucun message. Et il y avait dans cette annonce, hein, le dessin d'un petit bonhomme qui porte un masque à gaz et qui était devenu en fait avec les années l'avatar même de l'autre. Cette superstar de la bande dessinée. Très vite, il y a eu beaucoup d'hommages après sa disparition. De son éditeur, évidemment, différentes revues de manga, et puis de ses héritiers, Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto, donc les gens de One Piece ou de Naruto.
Bien sûr, oui.
Sans qui, évidemment, rien n'aurait.
Enfin, évidemment. Voilà,
qui reconnaissent évidemment tout ce qu'ils doivent à l'auteur de Dragon Ball.
Ouais.
Mais au-delà de ces hommages du milieu du manga, moi, ce qui m'a troublé, c'est sur les réseaux sociaux, le nombre de parutions en hommage au créateur. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu un petit Sangoku triste ou consolateur sur son petit nuage volant en 48 heures.
Ouais.
Et c'était assez incroyable parce qu'en fait, des gens dont je ne me doutais pas du tout qu'ils avaient pu un jour lire ou voir un épisode de Dragon Ball, des connaissances à qui je n'aurais même moi-même jamais osé dire que j'avais beaucoup regardé ces dessins animés quand j'étais adolescent, ont revendiqué les choses. Et j'ai d'abord pensé à quelque chose de très, très générationnel, en un mot, à la fameuse génération Club Dorothée, en fait, hein, puisque Dragon Ball était diffusé entre 88 et 96. Et bon, c'était un peu le haut de la vague. On se rappelle que 10 ans plus tôt, en 78, Dorothée déjà avait diffusé les fameux Goldorak, qui ont créé cette fameuse génération Goldorak des enfants qui.
Elle a beaucoup fait Dorothée pour cette génération. Ouais.
Elle a vraiment fait découvrir des animés japonais et à une génération qui n'allait jamais tout à fait s'en remettre. Il faut bien le dire. C'était le début d'une véritable invasion, comme on l'a beaucoup écrit à l'époque, de dessins animés japonais. Et puis un peu plus tard, finalement, de cette industrie du manga qui est devenue si forte. Aujourd'hui,
c'est une révolution
aussi.
Hein.
Et voilà, et c'est, je dirais que vraiment le gros de la vague, c'est la génération Dragon Ball, qui fait que aujourd'hui même Dragon Ball a une popularité qu'on n'arrive même plus à estimer. C'est-à-dire que les chiffres de vente de Dragon Ball ont atteint de tels sommets, on ne fait plus que des estimations. Et donc, j'ai retrouvé les données de 2016 qui évoquaient 160 millions d'exemplaires vendus seulement au Japon.
Ouais.
Et quasiment autant dans le reste du monde.
Évidemment.
C'est 30 millions en France. Enfin,
c'est
le deuxième manga le plus vendu de tous les temps derrière One Piece. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est devenu transgénérationnel aussi. Et que c'est des choses qu'on transmet non plus seulement à son petit frère, ce qui était mon cas, mais désormais à ses enfants, bien sûr. Et peut-être sans doute à nos petits-enfants bientôt.
Alors, Dragon Ball, c'est peut-être aussi le personnage qui cache la forêt parce qu'il a fait d'autres choses. Quelles ont été les premiers pas de mangaka d'Akira Toriyama, Dick?
Alors, ce sont des pas qui ne sont pas simples et pas faciles. Il est très vite passionné de dessin, mais il fait une école de design, mais ça lui dit pas trop de continuer ses études. Il veut travailler assez rapidement. Il se lance, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ne trouvent pas tout de suite leur voie dans la publicité. Bon, en vérité, il y est beaucoup trop cancre. Il n'arrive jamais à l'heure. Enfin bon, ça ne va jamais. Donc il démissionne. Ses parents le soutiennent comme ils le peuvent. Et il décide de faire des concours, hein, organisés par les fameux magazines de prépublication de manga. Et là, il postule, et toujours rien. Et puis finalement, à force d'endurance, il se fait repérer par l'éditeur d'un grand magazine, magazine Jump en l'occurrence, qui va le prendre un peu sous son aile, mais qui va le faire travailler pendant un ou deux ans, selon les témoignages d'Avary. En tout cas, il va remettre plus de 500-600 planches avant que l'éditeur accepte qu'il puisse publier quelque chose dans le magazine. Et ce récit, il est devenu quasi mythologique. Il est important parce que Toriyama, on le voit bien, s'est forgé dans une espèce de persévérance face à l'adversité. Et en vérité, c'est la grande valeur des séries publiées par Jump et de toutes les séries shonen, comme on dit, hein, cette ligne éditoriale de manga qui vise un public plutôt d'adolescents masculins, et qui est censé vraiment mettre en évidence, hein, des qualités de persistance, de courage. Et donc, on fait un récit quasi mythologique autour même de Toriyama. Alors, c'est vrai que ces magazines reçoivent beaucoup de candidatures et donc c'est très compétitif. Finalement, on est en 1978, il parvient enfin à glisser sa première histoire dans les pages du magazine. C'est un récit assez bref et loufoque, Wonder Island, une sorte de parodie de Tarzan. Et là, immédiatement, c'est un bide. Et donc, voilà, les choses ne restent pas faciles. L'explosion, elle arrive tardivement, elle arrive en 1980, avec une série qui s'appelle Dr. Slump, qui est une comédie très joyeuse, centrée sur une petite fille robot, maladroite, espiègle, curieuse, et son créateur, qui est le Dr. Slump, un petit peu pervers. Et c'est une sorte de variation sur la fameuse série de l'immense Tezuka et Astro Boy, évidemment. Humour burlesque, sens stupéfiant de l'exagération, avec un dessin assez élégant, assez précis, assez drôle. Et là, c'est le succès immédiat, d'autant que la série touche aussi le public féminin. Ça va lui apporter très vite la gloire, la reconnaissance. Il devient, en 84, 4 ans plus tard, il est considéré déjà comme une superstar.
Ouais, à plus ou moins 30 ans, quoi.
Ah oui, absolument. Ouais. Et puis, il est porté par l'adaptation très réussie ici à la télévision de sa série entre 80 et 86. C'est la grande époque de ce qu'on va appeler le media mix, hein, qui s'empare du Japon, c'est-à-dire vraiment la manière dont le manga et la japanimation vont trouver de nouvelles synergies très, très, en format win-win, si je puis dire. Et Toriyama devient même un modèle à suivre pour toute l'industrie.
Alors, ça, ce sont les débuts un peu laborieux, on va dire, surtout pour la rencontre avec le succès. Ouais. Et alors, après, arrive Dragon Ball.
Oui,
racontez-nous
voilà.
Ça.
Alors, pour Slump, qui est un immense succès, il travaille énormément et il a envie de sortir un petit peu de ce canevas-là. Il commence à chercher l'idée pour une autre série. Alors, il se trouve que Toriyama est passionné des films de Jackie Chan, cet immense acteur des films d'arts martiaux de Hong Kong, avec ce sens de la cascade, mais aussi du burlesque. Et donc, il a envie de créer quelque chose qui aura un peu cette tonalité là, et il fait un court manga du nom de Dragon Boy, c'est la première version, avec un jeune guerrier, une princesse et un petit dragon. Et puis le succès de cette petite histoire le pousse à développer les choses. Il va chercher l'inspiration dans un conte chinois tao-bouddhiste qui est la pérégrination vers l'ouest, qu'on connaît aussi en français comme le singe pèlerin ou le roi singe, puisque le héros principal est un singe immortel. Et en fait, ce roman est connu de longue date au Japon, mais c'est surtout un des grands classiques de la littérature chinoise. Et Toriyama n'est pas le premier à être inspiré par ce conte, puisque le grand Isamu Tezuka avait déjà sorti la légende de Son Goku en 1952, où il y avait déjà un petit personnage avec une queue de singe, un nuage volant, un bâton télescopique. Mais en vérité, c'est cet univers-là de base qui va être complètement redéveloppé par Toriyama, en personnalisant toute une série de figures et en laissant courir une imagination complètement débridée. Entre 84 et 95, il va dessiner 42 volumes, 519 chapitres de l'histoire, très vite adaptés en jeu vidéo et bien sûr en adaptation animé, immense, immense succès qui fera même que par la suite, Toriyama ne voudra pas faire d'autres séries. Il va produire parfois des one-shots et des courts récits. Et puis, il va surtout superviser les différents projets autour de cette franchise.
Ouais, d'où vient la puissance, en fait, de cette série qui est un feuilleton et que l'on suit forcément et qui évolue durant plusieurs années.
C'est ça. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu un seul épisode, je résume très rapidement de quoi il s'agit. On a Son Goku, qui est un petit garçon formidable. Il a une queue de singe, pourquoi pas. Mais il a surtout une force extraordinaire et un bon cœur, hein. Il est d'une gentillesse extrême. Il vit tout seul après la mort de son grand-père adoptif. Il rencontre une fille de la ville, lui qui habite vraiment la forêt la plus reculée. Une jeune fille de la ville, Bulma, très intelligente, un peu impulsive, qui cherche des boules de cristal. Et si elle réunit cette boule de cristal, elle fait apparaître Shenron, le grand dragon sacré. Et Son Goku va l'aider dans sa quête. Il va rencontrer une série de personnages assez singuliers. Et en vérité, le début de la série ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que comme c'est Toriyama, les gens lisent parce qu'ils veulent savoir quelle est la grande création de celui qui a créé Dr. Slump. Mais très vite, les ventes baissent et Toriyama comprend que c'est parce que son héros est peut-être un peu trop innocent, un peu trop naïf. Et il va décider de le développer à travers des arcs narratifs qui portent sur l'entraînement et le combat. Il va créer des tournois, des affrontements. Et le personnage va grandir face à ses rivaux. Et c'est là que deux choses vont vraiment être importantes dans le développement de la saga. D'une part, c'est des développements familiaux, c'est-à-dire que la tribu va s'étoffer, des couples vont se faire, Son Goku va devenir papa, il y aura des enfants qui auront leurs propres aventures, et la galerie des personnages est incroyable et foisonnante, avec de tout. Il y a des humains, des aliens, des cyborgs, des divinités, des dragons, des Saiyans, qui sont des guerriers de l'espace. On apprendra rétrospectivement que Goku est l'un d'eux. Voilà, chacun a son cœur qui penche pour différents personnages, Tortue Géniale, Yamcha, Vegeta. Moi, mes préférés les plus cools, c'était toujours la cyborg C-18 et Piccolo, qu'on appelait en français Satan Petit Cœur.
Ouais.
Et j'adore ce nom. Rien que pour le nom, c'est mon préféré. Et puis l'autre grand élément, c'est les combats qui deviennent de plus en plus homériques, qui inventent des pouvoirs dans une surenchère complètement folle, avec des mutations. On partait de petites choses de kung-fu et on finit avec des duels intergalactiques entre des dieux capables de détruire des planètes. Et donc Goku va évoluer sous un grand récit feuilletonesque. Évidemment, chaque arc de ce récit est animé par un grand conflit.
Mais c'est ça qui est intéressant finalement dans cette saga Dragon Ball, c'est tout l'imaginaire que cette saga va développer, et c'est un imaginaire qui est issu de la fantasy quelque part.
Oui, mais c'est une immense éponge, ça vient en effet de contes asiatiques séculaires, on l'a dit, mais on fait évoluer les personnages dans une sorte de planète Terre qui n'est pas tout à fait la nôtre. Il y a d'autres lieux fantastiques, il y a des lieux mystiques, on va visiter le séjour des morts, l'au-delà, Son Goku va mourir plusieurs fois, il ira visiter le purgatoire, le paradis, l'enfer, mais aussi des planètes de science-fiction comme la planète Namek. En fait, Toriyama, il absorbe tout. Le folklore japonais, le folklore chinois, les représentations eschatologiques occidentales, il ferme en feu de tout bois. Il y a la tradition paillarde aussi du manga, qui est quand même bien cultivée à travers des jeux de mots, notamment sur la nourriture, mais aussi sur des grivoiseries. Il y en a quantité dans la série. Il y a un antimilitarisme assez drôle avec la fameuse armée du Robot Rouge qui est sans cesse mise en déroute et ridiculisée. Et puis il y a évidemment ces grandes fictions d'arts martiaux qui sont revisitées.
C'est-à-dire ?
Alors, en vérité, Dragon Ball, c'est un article de la littérature de jeunesse et le manga de sport. Et le manga de sport, c'est très important depuis les années 30 au Japon, d'abord dans les buts de propagande en fait. Il s'agissait d'inculquer des qualités guerrières aux jeunes lecteurs et de montrer des héros exemplaires pour se dépasser soi-même et aller jusqu'au sacrifice. Son Goku est l'héritier de cela, qu'il va mettre en œuvre à travers une série de combats. Et c'est vrai que ces combats viennent évidemment du cinéma d'arts martiaux de Hong Kong que l'auteur aimait particulièrement, les parades de Kung Fu. Et il va se laisser aller dans cet imaginaire à déployer des combats de plus en plus fabuleux, avec deux choses visuellement dingues. D'une part, des décors qui seront démolis avec des dommages collatéraux invraisemblables. Un imaginaire de destruction dingue qui va d'ailleurs rebondir ensuite dans les films de super-héros hollywoodiens des dernières années. Et d'autre part, les corps eux-mêmes qui vont évoluer, se muscler, devenir autre chose, être entourés d'énergie.
Avec des pouvoirs.
Et le fameux, je savais que vous alliez m'en parler, le fameux Kamehameha. Ouais, ouais. Je sais que vous l'essayez chez vous souvent, Eric. qui consiste à essayer de faire sortir de son corps une énergie incroyable à travers ses poings, une boule d'énergie qui est en fait digne du feu nucléaire.
Ouais.
Et on voit bien qu'il y a une forme de réappropriation du fameux traumatisme japonais, s'il en est, Hiroshima, Nagasaki bien sûr, de pouvoir avoir des héros qui dominent le feu nucléaire et qui le font sortir de leurs mains. Et ça permet de faire une lecture assez passionnante de Dragon Ball, qui est une série extrêmement riche en fin de compte.
Alors, on n'en a pas encore parlé, Dick, et on va terminer avec cela, évidemment, c'est parce que c'est aussi du dessin. Et Akira Toriyama a une force du trait qui est quand même assez particulière.
Oui, il y a une puissance tout à fait évocatrice de son dessin. Je dirais de ses dessins, puisque, en fait, il n'y a pas que les personnages qui muent tout au long de la saga. Il y a son dessin, et chaque génération de lecteurs a finalement connu sa version de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, et puis etc. Alors, il y a le dessin très rond, très cartoon, très gracile, très joyeux des premiers tomes, qui se complexifie aussi avec des machines tout à fait étonnantes, parce que Toriyama aimait beaucoup dessiner des trucs mécaniques, en plus. Et puis, cette série évolue. Plus les personnages deviennent forts, plus ils deviennent carrés, carrés, musculeux, avec des chevelures en porc-épic là, qui explosent comme de formidables brasiers, et avec un imaginaire, on l'a dit, tout à fait nucléaire de la destruction. Et donc ça change beaucoup, évidemment, au fur et à mesure, mais quelle que soit l'époque, il y a une véritable force de frappe, si tu peux dire, de ces dessins, une sorte de fausse simplicité graphique aussi. Vous savez, c'est un peu comme Peyo, hein. On a l'impression que les schtroumpfs, c'est facile, mais quand on les dessine un, il ressemble jamais à un schtroumpf correct.
Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traits, évidemment.
C'est ça.
Et si on se trompe dans un trait, c'est foutu.
C'est ça. Chaque Son Goku que j'ai dessiné ressemblait quand même pas tellement à Son Goku dans le fond. Et donc, ce qui résiste, hein, tout au long de l'évolution de ce dessin, c'est le génie de la simplicité.
Voilà. Et puis, puisque vous m'avez percé à jour, on va proposer à nos auditeurs, un tout petit extrait, sonore, évidemment, de cette série Dragon Ball avec le fameux Kamehameha. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Pour terminer, Dick, peut-être un mot sur est-ce qu'il vaut mieux revoir la série, lire les bouquins, à votre avis ?
Oh ben, les deux, mon capitaine.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est toujours un plaisir, évidemment, de se replonger dans les dessins de Toriyama même. Alors, on verra que les dessins animés sont très fidèles à son esthétique, donc on reste dans ce graphiquement les mêmes choses. Mais c'est vrai que, le plaisir de feuilleter un manga n'a pas tout fait le même plaisir que la série. Il y a quand même, c'est vrai que la série, il faut être patient aussi, puisqu'on est dans des séries extrêmement feuilletonesques.
Avec, ça prend du temps.
Un récit déployé, et donc parfois, on a envie d'avancer un petit peu. Et donc, de ce côté-là, c'est peut-être plus facile de feuilleter le manga.
Merci beaucoup, Dick Tomasovic, pour avoir parlé de ce Akira Toriyama qui nous a quitté, hélas, le 1er mars dernier. À bientôt.
À bientôt.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.